Merci au Seigneur de nous avoir réunis une fois de plus. Donc, ce soir, on va continuer sur le thème « Dieu est vivant en nous ». Il y a une chose que je réalise encore, que vraiment, notre vie, c'est une vie de dépendance. Quand je pense, par exemple, à l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, si cet enfant pouvait parler, il pourrait dire « Maman, c'est ma vie ». Parce que dans cet environnement, il dépend de sa maman, dans le ventre de sa maman. Et quand l'enfant est né, il se trouve dans un autre environnement, il dépend de cet environnement. Il dépend de l'air. Aujourd'hui, vous et moi, nous dépendons de l'air que nous respirons. Parce que sans terre, sans l'air, on est mort. Et la fois dernière, je disais que Dieu est notre environnement naturel. C'est dans sa présence que nous devons vivre. Parce que sans lui, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Nous dépendons de Dieu. Et j'ai pensé à un chant. C'est un chant du groupe Hillsong, on le chantait en russe. Bon, c'est également traduit en français. Il y a des paroles qui disent « Cet air que je respire, c'est ta présence. Ce pain de chaque jour, c'est ta parole qui vit en moi. » Oui, Dieu est notre vie. Et la fois dernière, j'avais donc insisté sur cette notion que Dieu est vivant, parce que Dieu est vie et c'est lui qui nous communique la vie. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Et ça veut dire que nous dépendons de Dieu. Et ce soir, je vais continuer sur ce thème. Et quand je réfléchissais à ce thème, il y a une pensée qui m'est venue. Je vais partager avec vous ce soir. Et cette pensée que Dieu vivant en nous est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. C'est vrai que la croix, c'est une œuvre d'amour. Mais c'est aussi une alliance spirituelle qui un jour va s'achever par un événement glorieux. Le festin des noces. Et en pensant à Dieu vivant, qui est en nous, je ne peux pas m'empêcher de parler d'un Dieu d'alliance. Pourquoi? Je vais partager avec vous ce soir quelques passages. On va commencer par Malachie, chapitre 3, verset 1. Malachie, chapitre 3, verset 1. Ah, tu peux mettre l'écran. C'est la technologie, donc on est pas sûr. Et la vie nous apprend à être patient, il y a des circonstances dans la vie. Ouais, Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple. Qui? Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dans ce passage, il nous est dit que Dieu envoie son messager. Ce messager, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Mais sur quoi je voudrais attirer votre attention? Sur ces paroles, il dit que il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et il a appelé qui? Le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne s'agit pas du temple physique. C'est une parole prophétique. Parce que nous, en tant que croyants, nés de nouveau, nous sommes la maison de Dieu. Et chacun de nous individuellement est le temple de Dieu.
Amen.
Il a dit qu'il entrera dans son temple. Ça a toujours été le désir de Dieu de créer sa demeure en nous. Et c'est par alliance que Dieu a créé sa demeure en nous. Et c'est par cette alliance que nous sommes au bénéfice des bénédictions spirituelles. On va le voir un peu plus tard. Et en hébreu, le mot alliance, c'est, je vais le prononcer comme ça, berit, qui veut dire pacte, engagement, accord, alliance et amitié. J'aime aussi ce mot-là, amitié, en hébreu. Et en grec, c'est diatéke, qui veut dire aussi un accord, hein, un acte, un testament, une disposition, un arrangement de toutes sortes que l'on voudrait voir validé, la dernière disposition au sujet des possessions terrestres après la mort. Et nous constatons que depuis la chute de l'homme à cause de son péché, Dieu a toujours désiré de rétablir cette relation avec l'homme. Et je veux prendre quelques générations qui nous ont précédés et nous pouvons en tirer des leçons. Après la chute de l'homme, mon premier point, c'est une nouvelle génération est apparue. Une nouvelle génération. On va lire dans Genèse 4, versets 25-26. Genèse 4, versets 25-26. Il nous a dit ceci. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth lui aussi eut aussi un fils. Et il appela Enoch. C'est là que je voulais attirer votre attention. Et il dit ceci. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Et dans d'autres versets, il est dit que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Nous savons que Caïn a tué son fils, son frère Abel. La Bible nous dit que Abel était un homme de foi. Parce qu'il a été déclaré par Dieu juste, mais il a été tué par son frère. Hein. Vous voyez que tout a déjà, la persécution commençait déjà longtemps. Hein. Il tue le juste. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donner une nouvelle semence à Ève. Elle va donc engendrer un fils qui est là. Sept. Et elle a même dit que Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel, que Caïn a tué. Et Seth eut un fils qu'on appela Enoch. Et là, il est dit que c'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Et nous voyons bien que la génération de Caïn ne connaissait pas Dieu. C'est une génération des gens qui ont vécu, qui ne s'intéressaient pas à Dieu. Ils ont construit des villes, ils ont vécu, pour eux, Dieu n'a aucun intérêt. Mais là, il y a eu une nouvelle génération qui cherchait Dieu, une nouvelle génération qui s'intéressait à Dieu, parce qu'ils voulaient vraiment vivre cette communion avec leur Créateur. Invoquer le nom de l'Éternel, on peut aussi le comprendre sur le fait que c'est adorer Dieu. Là, on voit déjà qu'il y a une nouvelle génération des gens qui adoraient Dieu. le Dieu vivant, le Créateur. Donc, il y eut désormais, à cette époque-là, sur la terre, des adorateurs de Dieu. Nous savons que, dès lors, dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs personnes qui invoquaient le nom de l'Éternel. On va prendre par exemple Abraham. Abraham, il est dit ceci dans Genèse chapitre 12, verset 8. Abraham bâtit un autel à Bethel et invoque le nom de l'Éternel. Il y a également David qui bâtit l'autel de Morija et invoque le nom de l'Éternel. C'est dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 26. Il y a Élie qui va invoquer le nom de l'Éternel. On pourrait bien sûr en multiplier des exemples. Des gens qui, effectivement, adoraient Dieu. Et dans cette notion d'adoration, il y a toujours ce lien de sacrifice. Et nous comprenons que l'agneau immolé, Jésus, a fait de nous des sacrificateurs pour notre Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va nous dire que Dieu cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs. Si Dieu est vivant en nous, nous sommes appelés à être des adorateurs.
Amen.
Amen. C'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Et toute notre vie doit être consacrée à Dieu. Toute notre vie. Et c'est intéressant que Paul, en s'adressant aux Romains, c'est dans chapitre 12, verset 1, il dit ceci. « Je vous exhorte, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Ça, agréable à Dieu. Et ce sera un culte raisonnable. C'est bizarre que Paul parle de votre corps. Pourquoi notre corps? Mais parce que notre corps est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Dieu a décidé de créer sa demeure en nous. Et on ne peut pas faire de son corps n'importe quoi. Il appartient à Dieu. Nous sommes appelés à être des adorateurs. Et dans Hébreux, on va, tu peux mettre ça, Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Et dans ce passage, il est dit ceci, « Offrons donc par lui, c'est-à-dire par Jésus, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange. » Offrons à Dieu un sacrifice de louange. Et la parole nous dit que Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes appelés, effectivement, à servir le Dieu vivant. Et un peu plus tard, il y aura un homme qu'on appelle Enoch. On va lire dans Genèse chapitre 5, verset 21 à 24. C'est dans Genèse chapitre 5. Verset 21 avec. Il nous est donc parlé d'un homme, Enoch. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methuselah. Enoch marcha avec Dieu. C'est là aussi que je voudrais attirer votre attention. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah. Et il y eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Enoch, c'est aussi un homme de foi. Et il est dit, il marcha avec Dieu. Et quand je lis ces paroles, je vois une préfiguration également de l'enlèvement. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendra. Et la Bible nous parle de l'enlèvement de l'Église. Pensez-vous que c'est tout le monde qui sera enlevé? Je ne pense pas. C'est ceux qui marchent avec Dieu. Ceux qui marchent avec Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens. Quand le Seigneur reviendra, c'est ceux qui marchent avec le Seigneur qui seront enlevés. Et ce qui est intéressant, Paul va dire ceci dans Colossiens 2, chapitre 2, verset 6. Colossiens, chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Enoch, un homme de foi qui marche avec Dieu. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à marcher avec Jésus. Si nous avons cru en Jésus, nous devons marcher avec Jésus. C'est vraiment une union, une vie de commun. Et nous réalisons que sans le Seigneur, nous ne sommes rien et nous sommes perdus. C'est pour cela qu'il nous appelle à marcher avec lui. Si Dieu a créé sa demeure en nous, s'il vit en nous, c'est pour marcher avec lui.
Amen.
Marcher en communion avec Dieu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nombreux ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais qui ne marchent pas avec Dieu. Donc, nous avons vu une génération qui invoquait le nom de Dieu, qui cherchait Dieu. On a vu un homme de foi qui marchait avec Dieu. Et par la suite, il arrive qu'une autre génération, un autre monde qui a un monde corrompu. On va lire cela dans Genèse 6, versets 5 à 9. Ça, c'est mon autre. Un monde corrompu. C'est à l'époque de Noé. Un monde qui ne connaissait pas Dieu. Donc, il est dit ceci dans Genèse 6, verset 5 à 9. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur puni. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, il dit, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi ? Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé, dans sa génération, parmi ses compatriotes, qui étaient des pêcheurs, c'était un homme différent. Oui, si on dit que Noé est un homme juste, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de péché. Non, c'était un homme de foi, un homme qui marchait avec Dieu. Et un peu plus tard, nous verrons que Dieu a conclu également une alliance avec Noé. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il est écrit, Noé était juste et intègre dans sa génération. Qu'en est-il de notre génération aujourd'hui? C'est aussi une génération corrompue, un monde corrompu. Le mal qui se multiplie dans notre monde, on le voit bien. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes justes, des hommes de foi, des hommes intègres, des hommes qui marchent avec lui. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Et ce qui est intéressant, le Seigneur Jésus, en parlant de son retour, il va évoquer l'époque de Noé. Et il dit ceci dans Matthieu, chapitre 24, verset 37 à 38. Là, le Seigneur parlait de son retour. Et il dit ceci donc dans Matthieu 24, verset 37 à 39. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. C'est ce que Jésus dit. Comme à l'époque de Noé, ces hommes corrompus, ces hommes qui marchaient dans leur péché, qui ne s'intéressaient pas à Dieu, il en sera de même lors de son retour. Mais par contre, ceux qui marchent avec lui seront enlevés. Et un peu plus tard, nous voyons après le déluge, Dieu va conclure une alliance avec Noé. Là, je vous parlais d'un Dieu, d'alliance. Là, il nous a dit, donc dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 11. Donc là, c'est mon troisième point. L'alliance de Dieu avec Noé. D'accord? Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Si, jusqu'à ce jour, Dieu n'a pas détruit notre terre, parce que il a conclu cette alliance avec Noé. Il a conclu cette alliance. Même avec les animaux, lui dit. Et le signe de cette alliance, c'est quoi? C'est l'arc. Et c'est ce que Dieu va dire dans Genèse 9, versets 12 à 13. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Dieu a conclu cette alliance avec Noé. Aujourd'hui, les gens admirent l'arc-en-ciel, mais les gens ne comprennent pas le sens de cette alliance, de ce signe. Et je ne le comprends pas. Et j'ai vu sur Internet, vous savez, il y a la communauté LGBT. En 1978, ils ont créé un drapeau arc-en-ciel. Et j'ai lu, il est dit que pour ce drapeau, hein, l'arc-en-ciel, en fait, pour eux, évoque généralement la paix, la diversité sexuelle et de genre, ainsi que l'harmonie entre les individus dans le monde entier. L'arc-en-ciel, le drapeau. Vous voyez, le diable a tout déformé. Les gens ne comprennent pas le sens. Pourquoi est ceci? C'est parce que Dieu a conclu une alliance avec Noé. Bien qu'aujourd'hui, notre monde n'est pas différent de celui de Noé. Et un peu, la génération de Noé. Et un peu plus tard, nous voyons que Dieu va conclure une alliance avec un homme qu'on appelle Abraham. Là aussi, Dieu va conclure une alliance. On va lire ceci dans Genèse 12, versets 1 à 14. Donc Dieu a choisi cet homme. Cet homme ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'a choisi. Dieu lui a parlé. Et Abraham, c'est un homme de foi aussi. Il a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ce que Dieu dit à Abraham. C'est une alliance qui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Chara. Il prit sa femme Sarah et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Chara. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Là, Dieu a décidé également, un peu plus tard, de conclure une alliance avec Abraham. C'est pour cela que, même dans Galates, l'apôtre Paul va dire ceci, Galates 3, chapitre 3, versets 26 à 29. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Pourquoi Dieu avait conclu une alliance avec Abraham? Une alliance avec Abraham. Dieu a décidé de bénir toutes les familles de la terre. C'est une alliance. Et il est dit que nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Abraham, c'est un homme de foi. Il a appelé le père de la foi. Nous sommes appelés à être des hommes de foi. Avoir toujours cette confiance en Dieu, malgré tout ce que nous traversons. Et parfois, on ne comprend rien. Mais, on reste des hommes et des femmes de foi. Toujours avoir cette confiance en Dieu. Et ce qui est intéressant, quand je vous ai parlé de la définition du mot alliance, je vous ai dit que ça signifie aussi amitié. Et dans Jacques, chapitre 2, verset 23, il est parlé d'Abraham comme un ami de Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 23. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ainsi ami de Dieu. Ami de Dieu. C'est beau, hein? Et qu'est-ce que Jésus dira à ses disciples? On va lire dans Jean, chapitre 15, versets 14 et 15. Jésus, en s'adressant à ses disciples, il dit ceci. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà. C'est ce que le Seigneur désire avec nous. Vivre cette amitié. Vivre cette amitié. Et un peu plus tard, nous verrons que c'est une alliance que le Seigneur a conclue avec nous. C'était dimanche dernier quand Hélène prêchait dans sa prédication. Elle disait qu'on doit respecter. Qu'est-ce qu'on doit respecter?
Les commandements.
Eh oui. Et c'est ce que Jésus dit ici. Si vous faites ce que je vous commande, là vous serez mes amis. Eh oui. Alors, au fil du temps, on voit bien que Dieu est apparu aux hommes. Dieu va apparaître à Moïse, il va lui faire connaître son nom, il va lui révéler ce qu'il est, et un peu plus tard, Dieu va conclure l'alliance avec le peuple d'Israël. On va lire ceci dans Genèse 24, chapitre 1 à 8. Parce que Dieu voulait habiter parmi son peuple, et Simon nous avait parlé du tabernacle. Ouais, vous vous souvenez, hein? Pourquoi Dieu avait décidé qu'on puisse construire le tabernacle? Parce que c'est un signe de la présence de Dieu parmi son peuple. Il est donc dit ceci dans Genèse 24, 1, 8. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 ans d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est beau, hein? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. D'accord, ce n'est que des paroles. Moïse écrivit toutes les parole de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit, c'est là où je voudrais attirer également votre attention, la suite. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassins. Et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce jour-là, quand Dieu a décidé de conclure son alliance avec ce peuple d'Israël, Moïse prit donc le livre de l'Alliance. C'est quel livre? C'était des paroles écrites par Moïse, des paroles que Dieu lui avait données. Ce livre de l'Alliance. Et ensuite, il aspergea tout le peuple, le sang, et dit ceci. Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de ces paroles. Alors, je voudrais donc dégager ces deux éléments. Le livre de l'Alliance, le sang. C'est très important parce qu'on y reviendra. Le livre de l'Alliance et le sang. Et un peu plus tard, il est dit ceci. Donc, Moïse va donc faire un sanctuaire parce que Dieu lui avait dit qu'il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, quand le Seigneur Jésus va Donc là, je veux te parler de la nouvelle alliance. Donc là, on a vu l'alliance que Dieu a conclue avec Noé, a conclue avec Abraham, l'alliance que Dieu a conclue avec Israël, et le Seigneur Jésus va nous parler d'une nouvelle alliance. Et le jour, ce soir, quand il est avec ses disciples, il va dire ceci dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 9, avec 9. Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le remplit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ce soir-là, Jésus dit à ses disciples, buvez ceci. Et mon corps. Quand je vous ai dit que lors de l'alliance avec Israël, il y avait deux éléments, le sang, le livre de l'alliance. Le livre de l'alliance qui représente Dieu lui-même. Ce soir-là, en présence de ses disciples, Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est devenu homme, en présence de ses disciples, va dire, ceci est mon corps. Donc là aussi, on voit le sang, la parole. La parole qui est Jésus. Le sang, la parole. Parce que autrefois, Moïse a dit au peuple, il a bien dit, je vais relire ses paroles, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de ses paroles. Et ce soir-là, Dieu, en présence de ses disciples, Dieu est parole. Dieu qui est parole est devenu homme. En présence de ses disciples, il était là. Et il parle d'une nouvelle alliance. Il parle de son sang versé pour nous. Donc, nous voyons bien que là, Jésus, ce n'est plus l'alliance conclue avec le peuple d'Israël. Il dit bien, une nouvelle alliance que je conclue avec vous. Parce que c'est l'alliance par son sacrifice. C'est pour cela l'auteur aux Hébreux va beaucoup parler sur l'alliance. La nouvelle alliance. Si Dieu est vivant en nous aujourd'hui, c'est par alliance. Parce qu'il a conclu une alliance avec nous. Jésus a donné sa vie pour que aujourd'hui, Dieu vive en nous. C'est par alliance. Si vous posez la question à plusieurs croyants, est-ce qu'ils comprennent vraiment qu'ils sont dans une alliance avec Dieu? C'est une alliance. Qui dit alliance, dit amour. Qui dit alliance, dit fidélité. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est fidèle, même si nous, parfois, nous ne sommes pas fidèles. Dieu est fidèle. Et on va lire donc dans Hébreux, comme je vous disais que L'auteur parle beaucoup hein, de l'alliance. On va lire donc dans Hébreux, chapitre 9, versets 14 à 22. Donc, je vais juste prendre quelques passages. Donc, il dit ceci. Le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous a appelés à le servir? Il est bien dit, hein? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce n'est pas un nom, n'importe quel Dieu. Hein? C'est le Dieu vivant. Et s'il vit en nous, nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu. Et oui. On va continuer. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, c'est-à-dire Jésus. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et également au chapitre 8, versets 10 et 13, il est écrit ceci, ça c'est Dieu qui parle, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. » Ce ne sont plus des lois sur les tables. Maintenant, non? Dans leur esprit, dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Amen.
Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère, en disant tu dois connaître le Seigneur, car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vie, est près de disparaître. Donc là, il nous est parlé d'une nouvelle alliance conclue par le Seigneur Jésus, par son sacrifice. Dieu nous a fait entrer dans son alliance. Soyons conscients. Et nous devons vivre cette alliance avec le Seigneur. Soyons conscients. C'était toujours la volonté du Seigneur Dieu. Et pour finir, comme je l'ai dit au début, cette alliance va s'achever dans l'avenir par un événement glorieux. C'est pour ça que le Seigneur va révéler cela à Jean en disant ceci dans Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9. Donc on va lire ce passage, Apocalypse 19, versets 6 à 9. Et j'entendis, ça c'est Jean qui parle, comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc là, il nous est bien dit d'un festin de l'agneau. Le livre d'Apocalypse insiste aussi sur le fait de l'agneau. C'est toujours cette notion de sacrifice. L'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Il a conclu cette alliance. Et il nous a préparé un héritage merveilleux. Et là, c'est la fête. Alors, l'épouse doit se préparer. L'épouse doit se préparer pour cet événement glorieux. Parce que Dieu nous a invités à ce festin. Parce qu'il y a eu une alliance. Il y a eu une alliance. Est-ce que nous nous préparons? Chacun de nous doit se poser cette question. Et comme je l'ai dit au début, que le Dieu vivant en nous, c'est un Dieu d'alliance. C'est par alliance qu'il a créé sa demeure en nous. Je vais m'arrêter là. Parce que je pourrais bien continuer, je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas vous retenir.